C'est l'heure de l'émission Dialogue entre Congolais avec Jean-Claude Mpumba Samanga.
Dialogue entre Congolais ce soir, Nord Kivu, les FARDC et la MONUC optent pour la force. Qu'est-ce qui justifie cette option? Quelle chance pour rétablir la paix à l'est du pays? Voilà pour le thème, et pour ce qui est des réactions, Moami Adolphe, auditeur d'Ouvira au Sud Kivu, soutient l'option militaire, car d'après lui, c'est elle qui peut ramener la paix dans cette province. Steve Kissembo de Bounia dans la province orientale dit merci à la MONUC et au FARDC pour cette décision d'en finir par la force. Mais, dit-il, sachez que c'est la population qui subira les conséquences de cette offensive. De Mwanda au Bas-Congo, Etienne Ludila Mike pense que la MONUC et les FARDC peuvent tout tenter à l'est, mais s'ils ne cherchent pas à négocier, rien ne marchera. Dialogue en Congolais reçoit pour ce thème quatre invités. Il s'agit de Jean Bouyou, député national PPRD et premier vice-président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Moïse Nyarugabo, il est sénateur, membre du RCD. Kemal Saïki, porte-parole de la MONUC. Et Flavien Kiza, il est président intérimaire de la coordination de la société civile à Goma au Nord Kivu. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8-999-222.
Nord Kivu, les FARDC et la MONUC optent pour la force. Qu'est-ce qui justifie cette option? Je vais vous proposer la déclaration du général Dieudonné Kayembe et les chefs d'état-major des FARDC. Mais d'abord, cette nouvelle que vous avez sûrement suivie dans nos journaux tout à l'heure à propos du Nord Kivu, c'est la reddition du commandant d'un bataillon du CNDP, c'est l'organisation de Laurent Kunda. Il s'agit d'un commandant qui s'est rendu avec 13 autres éléments tôt ce matin à la MONUC au niveau de Sake. Reddition intervenue après plusieurs discussions intenses menées par des casques bleus de la MONUC avec ces éléments fidèles à Laurent Kunda. Cela lorsque cet officier, ses troupes, tentaient de reprendre une position FARDC. Il s'agit d'une colline surplombant un Sake où est installé l'émetteur de la compagnie de téléphonie cellulaire Celtel, position qui avait été reprise des mains des dissidents par la MONUC début décembre. Rosalie Zawadi pour les détails.
Âgé de 35 ans, le major Mito dit avoir quitté les rangs du CNDP afin de suivre le processus de brassage des troupes FARDC. C'est vers 2h du matin, dans la nuit de lundi à mardi, que le major Mito s'est rendu au casque bleu de la MONUC avec 13 hommes de ses troupes, dont 5 mineurs et plusieurs armes. Cet officier affirme qu'il dirigeait le 5e bataillon de la 5e brigade du CNDP qui comptait environ 480 hommes. Il lance un appel aux autres combattants restés dans les rangs du CNDP de suivre son exemple.
Le message que j'étais leur transmettre, c'est que nous avons combattu pendant longtemps au stade où nous en sommes, mais la paix est plus importante que la guerre.
Le major Mito précise qu'il a intégré les rangs du CNDP il y a environ 2 ans. Bien avant, il a servi dans les FARDC. La MONUC se félicite de cette reddition et lance un appel aux autres dissidents et autres combattants membres des différents groupes armés pour qu'ils déposent les armes et intègrent l'armée loyaliste. Pour l'instant, les responsables de la 8e région militaire ne se sont pas encore prononcés sur cette reddition. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Et suivez maintenant le général Dieudonné Kayembe, chef d'état-major des FARDC. Il annonçait la semaine dernière l'option militaire.
Maintenant, que toutes les voix de persuasion, toutes les voix pacifiques ont été épuisées, je suis venu précisément établir les plans pour la contrainte, pour l'usage de la force. Nous exécutons ce travail de conception et de planification avec la MONUC. Vous voyez à mes côtés non seulement le commandant de la MONUC, mais vous voyez aussi bien le commandant de la division S de la MONUC. C'est pour vous dire le sérieux qui est accordé à ce travail de conception et de planification.
je signale que Babacar Gaye, qui est le chef aussi, un peu le chef d'état-major, si on peut le dire ainsi, des casques bleus de la MONUC, s'est exprimé presque, c'est le commandant, voilà, force, s'est exprimé sur le même ton. Voilà. Mais là, maintenant, avec cette reddition, Jean Bouillou, vous êtes député national, vous êtes aussi premier vice-président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Est-ce que il faut maintenir l'option militaire après cette reddition de ce major et ces 13 hommes de fidèles à Laurent Kunda? Est-ce qu'il faut maintenir l'option militaire malgré cela?
D'abord, il faut dire que cette reddition n'est que trop partielle. Vous savez le nombre d'hommes qu'il y a autour de Laurent Kunda. Et vous savez aussi toute la patience que la communauté internationale, la MONU, le gouvernement de la République démocratique du Congo, toute la patience qui a été mise pour justement amener différentes forces autour de lui, différentes composantes de ses équipes à venir, à rejoindre cette solution qui est idéale. On est passé par le brassage, ou même par ce qu'on appelait le mixage, le brassage. Tout cela, ça a été des voies, des pistes ouvertes depuis pratiquement 2 ans maintenant pour qu'on arrive à trouver une solution pacifique qui était une solution réellement idéale et qui demeure toujours idéale parce qu'elle épargne les vies humaines, elle épargne les vies humaines tant parmi les militaires que parmi les civils. Et c'est le recours à la force est contingenté par évidemment l'absence de solution idéal.
Clément Saïti, vous êtes porte-parole de la MONUC. Hein, on a suivi dans cette option militaire la MONUC. En tout cas, il est allé tout droit, n'est pas allé par 4 chemins. Mais on a suivi dans l'élément tout à l'heure sur cette reddition, la MONUC qui lance un appel aux autres fidèles à Laurent Kunda de suivre cet exemple, de se rendre. Est-ce que ça ne contredit pas cette option militaire?
Non, il n'y a pas de contradiction. Pour ce qui est de la phase de contrainte dont ont parlé les généraux Babacar Gaye et Kayembe, il y a une détermination qu'on était arrivé à un point où il fallait envisager cela. Je ne peux pas porter de jugement là-dessus, c'est une décision qui a été prise par des gens beaucoup plus experts que moi. Ceci dit, comme je l'ai dit une fois, la recherche de solutions pacifiques fait partie du patrimoine génétique des Nations Unies. Donc rien n'empêche que dans le même moment que l'on s'achemine ou pourrait s'acheminer vers une situation de contrainte, d'usage de la contrainte, on demeure ouvert et on garde la porte ouverte à tous ceux qui voudraient volontairement se désarmer, se démobiliser, et pour les groupes étrangers, être rapatriés. Je crois qu'il n'y a pas de contradiction. Si on peut épargner des vies humaines et des destructions pour aboutir au même résultat, c'est souhaitable, mais je crois qu'effectivement, comme l'ont dit les généraux, on a suffisamment laissé de temps au temps.
Beaucoup de temps au temps. Alors, Boïse Niargabo, vous êtes sénateur RCD. D'abord, votre réaction à cette reddition, alors qu'on peut dire, tout le monde attend un peu finalement cette offensive qui a été annoncée officiellement.
C'est peut-être une preuve que il est possible de trouver des solutions sans passer par les armes. Je veux commencer par dire que c'est un droit pour l'État, pour le gouvernement. C'est même un devoir de rétablir l'autorité de l'État. C'est incontestable. Mais à cela, décider de l'option militaire, moi je ne le soutiens pas. J'ai toujours pensé que la voie pacifique, que la voie politique était la meilleure. Et je la soutiens jusqu'au bout. Et on ne m'a pas encore donné la preuve du contraire. Quand on dit que toutes les autres voies ont été épuisées, je me demande qu'est-ce qui a été entrepris. À part les ultimatums, je n'ai jamais vu un dialogue engagé, alors qu'il y a des partis qui ont demandé ça. On a refusé le dialogue. Ça aussi, il faut le reconnaître. Il faut dire qu'il y avait un seul choix, se rendre ou être écrasé. Donc, je crois qu'il n'y a pas eu suffisamment d'ouverture, à mon avis. Et on peut dire, non, on n'a pas besoin de négocier avec les CNDP, avec les insurgés. C'est aussi un choix. Mais que moi, je ne soutiens pas. J'espère, à mon avis, qu'il ne s'agit que d'une menace. Une menace qui peut aider les partis à revenir à la table, à revenir au dialogue.
Là, vous parlez de l'option militaire.
L'option militaire qui a été annoncée par les deux responsables militaires. J'espère que c'est une menace. Une menace qui est une tactique, qui est un instrument qui peut aider les partis à revenir à la raison et à revenir au dialogue. Mais si la menace est exécutée, elle va cesser d'être menace et elle va cesser de porter les fruits des menaces.
Voilà. On va d'abord passer à vous. Nous savons que nous avons en ligne depuis Goma Flavien Tshiza. Vous êtes président intérimaire de la coordination de la société civile à Goma. Sur place, dans la ville ou même dans la province du Nord Kivu, comment vous vivez justement d'abord cette annonce de l'option militaire et puis cette reddition qui intervient? Comment vous vivez tout cela?
D'abord, je dois vous féliciter et que je suis très content de me faire intervenir au niveau de votre émission.
Allez-y, gagnez vos minutes. Allez-y.
Merci beaucoup. Je dois d'abord placer un mot par rapport à ce que vient de dire monsieur l'honorable Moïse Nyarugabo. Je dois me demander, il doit savoir il est dans quel gouvernement. Il est dans le gouvernement de la République démocratique du Congo. Je pense que la position qui a été prise, c'est une position gouvernementale, soutenue par la communauté internationale, invitée par le gouvernement de la RDC. Et donc, c'est une position que nous soutenons et que nous avons approchée avec toutes les mains. Et c'est ça qui était toujours notre appel depuis que les hostilités et les bavures de Laurent Nkunda ont commencé. Et c'est un peu ça que je voulais commencer. Mais par rapport aux conséquences, il y a plusieurs conséquences. Depuis qu'il a commencé à perturber, il est parti à Bukavu et à Mushaki, à
Moussou,
à
Matisti. Là, vous parlez de qui?
Je parle du général Ndichi, du général Ndichi Laurent Nkunda. Jusqu'aujourd'hui, il y a plusieurs conséquences qu'on a en train de vivre, notamment le déplacement massif des populations, ainsi que beaucoup de morts, et même la hausse des prix au niveau des denrées alimentaires et au niveau de la vie de Goma, et ainsi que dans l'intérieur, il y a aussi la hausse des prix au niveau des produits de première nécessité qui sont passés du simple au double ou au triple, pour ne pas parler du quadruple. Ce sont là les conséquences qui sont en train de se passer ici.
Oui, mais maintenant, par rapport à cette option militaire qui a été annoncée, et puis la reddition, qu'est-ce que vous en pensez, Flavien Tshiza?
Oui, nous pensons que c'est ça la dernière position, puisqu'il y a déjà 2-3 ans, et ils ont commencé à faire des bavures, ils ont commencé à faire les gros dos, ils ont commencé à faire les gangstérismes, pour ne pas citer que cela. Et on a tendu la main aux fils du pays qui n'ont pas voulu céder à l'appel du chef de l'État. On a demandé aux gens de passer au brassage, ils n'ont pas voulu. Et nous, on demandait aussi, ils sont avec nous au niveau des citoyens congolais, ou s'ils ne sont pas avec nous, ou alors ils ont les agendas cachés, ou ils sont avec les étrangers, ce n'était clair.
Oui. Voilà, Nord Kivu, les FARDC et la MONUC optent pour la force. Qu'est-ce qui justifie cette option? Quelle chance pour établir la paix à l'est du pays? C'est le thème de cette émission. Je vous rappelle que nous recevons Jean Bouyou, député national du PPRD, premier vice-président de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Moïse Nyarugabo, lui, les sénateurs du RCD. Flavien Tshiza, président intérimaire de la coordination de la société civile Goma. Et Kema Saïki, porte-parole de la MONUC. Je reviens vers vous, Jean Bouyou. Vous avez suivi tout à l'heure le sénateur Moïse Nyarugabo dire que voilà, s'appuyant un peu ou bien faisant allusion à la déclaration même de l'option militaire où et le général Dieudonné Kayembe et même Babacar Gaye, ils disent qu'ils ont épuisé toutes les voies de négociation ou politique. Quelles sont ces voies justement? C'est la question du sénateur Nyarugabo, je vous la pose justement. Quelles sont les voies qui ont été utilisées et qu'on peut dire aujourd'hui qu'elles ont été épuisées?
Ben écoutez, il n'est un secret pour personne que non seulement il y a eu toute une série de rencontres au niveau international, dont il est fait rapport chaque jour, chaque fois qu'il y a eu des rencontres, que ce soit à Dar es Salaam, à Nairobi, à Kigali, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma même, à Bukavu. Et nous avons la chance de ne pas seulement écouter le sénateur Nyarugabo, mais aussi d'écouter de temps en temps Laurent Nkunda lui-même, qui s'exprime souvent sur les récits.
Et qui dit quoi?
Et qui dit, voilà, je ne suis pas d'accord avec ça, je renonce ça. N'oublions pas qu'il est, au départ, général de l'armée nationale congolaise, donc de notre armée. Et donc, il a été déchu. Et il y a une discipline militaire, il y a un code pénal militaire dans le pays. Et donc, il n'ignore pas sa situation. Dire qu'on ne l'a pas approché, qu'on n'a pas tenu compte de lui, ça relève un peu, moi je dirais, bon, des choses qu'on peut dire comme ça.
Mais on a entendu aussi dire qu'il est prêt à dialoguer, à négocier, mais est-ce qu'il a été écouté du côté gouvernement?
Mais vous l'avez suivi, la radio Capi rapporte souvent toutes les délégations qui vont auprès de lui, avec l'accord de notre gouvernement, les ambassades des pays européens, jusque récemment la délégation américaine, pour convoyer un message, donner de commun accord avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Mais contre tous ces messages, il a dit non. En fait, ce n'est pas qu'il ne s'exprime pas, on l'entend, on suit, on sait comment il réagit, et je ne vois pas celui qui va dire au pays qu'il ne connaît pas le point de vue de Laurent Kunda, ou que Laurent Kunda n'a pas été approché. Je trouve même superfétatoire d'en parler.
Est-ce que
c'est tellement évident?
Oui, mais Jean Bouyou, quand le gouvernement dit que Laurent Kunda doit amener ses éléments, lui-même doit se rendre, et ses éléments doivent aussi se rendre, est-ce que c'est ça la négociation?
Mais lorsqu'on lui a donné la possibilité, à travers ce qu'on a appelé, ou ce que lui avait proposé, les mixages et tout ça, et de venir...
Accepté aussi par le gouvernement?
Mais bien sûr. Mais vous avez vu comment il a réagi? Il a fait quelques pas, et puis après lui-même s'est retenu, et chaque semaine il a multiplié les prétextes pour dire que lui ne peut pas rejoindre telle opération ou telle autre, et tout compte fait, la population de Kivu s'est trouvée en quelque sorte abusée, avec une possibilité qu'on a donnée à ces hommes d'être un peu partout, et un danger d'une attaque plus généralisée. Toutes ces opportunités lui ont été données dans l'idée de dire, il vaut mieux lui donner la possibilité de ne pas prendre prétexte, en disant que, bon, enfin, il va être en danger ou qu'on va tuer ces hommes. Et donc, on a donné un statut qui permettait de sécuriser ces hommes et de le sécuriser lui-même. Et malgré le fait qu'il avait déjà été condamné pénalement et même déchu, le gouvernement a encore, en fait, reculé en disant, nous pouvons encore, et ceci était la suggestion de la communauté internationale, nous pouvons encore négocier, il peut encore entrer dans les rangs. Je pense qu'il ne s'agit pas ici d'un chef d'État d'un pays étranger ou d'une armée étrangère. Il s'agit d'un élément de notre propre armée qui est soumis à la déontologie de son corps, au règlement de son corps.
Merci Jean Bouyou. Nord Kivu, les FARDC et la MONUC optent pour la force. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons voir quelles chances pour rétablir la paix à l'est du pays. Je vous signale que je suis avec Jean Bouyou, député national PPRD, premier vice-président de la commission défense sécurité à l'Assemblée nationale, Moïse Nyarugabo, sénateur RCD, Kema Saïki, porte-parole de la MONUC, et Flavien Chiza, il est président intérimaire de la coordination de la société civile à Goma au Nord Kivu.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8999-222.
Après l'annonce de l'option militaire par les FARDC et la MONUC, quelle chance pour établir la paix à l'est du pays? L'essentiel est de trouver une stratégie politique devant conduire sur la voie de négociation en vue de résoudre le problème de l'est de la RDC. Ces propos sont de Jason Stuntz, un analyste indépendant et ancien de l'International Crisis Group. Il a été joint au téléphone par Anselme Sissimombert. On l'écoute.
Je pense que d'abord, il faut être un peu prudent par rapport à l'analyse de cela, parce que le général Gay a dit que, comme vous dites, ils vont découvrir la force. Mais dans le passé, la MONUC s'est avérée assez réticente par rapport à l'utilisation de ses propres forces de manière agressive contre le Kunda. C'est-à-dire qu'ils défendent Goma, ils défendent Bukavu s'il y a une attaque du Kunda, mais ils vont parler de pourchasser en brousse. Même par là, il a dit qu'ils vont utiliser la force, mais il n'a pas dit en de quelle façon la MONUC va créer les forces gouvernementales.
Oui, M. Jason Sers, est-ce que ce recours à la force peut-elle laisser augurer une chance à la paix?
Pour moi, la solution finale doit être une solution politique. Maintenant, est-ce que dans le but d'atteindre la table de négociation, est-ce qu'il faut utiliser la force comme levier contre la ministre de Laurent Kunda? C'est possible, mais pour moi, ce qui est essentiel, c'est de formuler une stratégie politique pour aboutir à une solution. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas si cette stratégie politique est en place. Et donc, je pense que Maintenant, il est temps de rentrer à la table de négociation, justement, de négocier ce qui est possible, ce qui n'est pas possible.
Voilà, Johnson lui propose de retourner encore à la table de négociation, mais d'abord, il a évoqué aussi l'option de la MONUC, le rôle que la MONUC peut jouer. Kemal Saïki, vous vous êtes porte-parole de la MONUC. Est-ce que la MONUC sera au front?
Tout d'abord, laissez-moi faire une petite précision, une rectification dans l'intitulé de votre émission. Vous avez dit la MONUC opte pour la force.
Elle est fardée, hein.
C'est pas mais c'est de prime abord essentiellement une décision du gouvernement congolais. C'est une décision qui est la décision du gouvernement congolais.
Appuyée par la MONUC.
Parce que nous avons mandat pour le faire. Comme vous le savez, dans la résolution 1756 que je peux vous citer, il est bien entendu que l'un des mandats, l'un des rôles de la mission des Nations Unies au Congo est de dissuader toute tentative d'utilisation de la force pour menacer le processus politique de la part de tout groupe armé, congolais ou étranger, et particulièrement dans l'est de la République démocratique du Congo, y compris par l'utilisation de tactique de
corps de essayer de parler dans le micro comme ça on va
y compris par l'utilisation de tactiques militaires visant à remettre en question les capacités militaires des groupes illégaux armés. Alors, je crois qu'il faut insister sur le fait que là nous avons affaire, et il s'agit non seulement des dissidents de M. Nkunda mais d'autres groupes armés qui sont présents là-bas, qu'il s'agit
notamment des LR,
des Maïmaïs, nous avons affaire à des groupes qui sont armés et qui sont illégaux. Si l'on veut parler de restauration de l'autorité de l'État, il n'est pas tolérable pour un pays, pour un État, d'avoir une présence d'éléments illégaux qui sont hors la loi.
Et mais
hors la loi au sens strict.
Hors de la loi. Oui, mais est-ce que la MONUC sera au front? Parce que l'option militaire, elle a été quand même soutenue par la MONUC.
La MONUC n'a jamais varié de ce qu'elle a fait, de ce qui a été son mandat. Je vous renvoie à novembre 2006 à Saké, où l'utilisation de la force a été en fait établie. Parce qu'il y avait une menace, je vous rappelle que ce qui est essentiellement au cœur de notre mandat, c'est la protection des populations civiles. La réticence que l'on a pu avoir ou que l'on pourrait avoir à l'utilisation de moyens militaires, c'est que nous savons très bien l'impact direct, immédiat et dévastateur que cela a sur les populations civiles. Même quand elles ne sont pas la cible directe des combats, l'impact lorsque vous avez des dizaines de milliers de personnes qui sont jetées sur les rues, dans des conditions abominables, qui sont jetées sur les routes, sans soins, sans nourriture, sans abri, on ne peut pas ne pas ignorer cet aspect humanitaire. Et ça, je crois que c'est au cœur du problème.
Donc, la MONUC sera-t-elle au front? Enfin, je vous pose encore
mon téléphone. Écoutez, la MONUC, elle l'a démontré dans ses capacités et dans ses actions. Elle apportera tout le soutien dont les forces armées congolaises auront besoin lors de leurs opérations.
Oui. Moïse Nyarugabo, à ce niveau, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que je vous vois se poser la question.
À ce niveau, j'ai quelques réactions.
Oui,
la première, j'ai bien suivi l'honorable Jean Bouillou qui a parlé du mixage.
Oui.
J'ai juste besoin de savoir, entre nous soit dit, qui a dénoncé le mixage? Si aujourd'hui on peut parler du mixage comme quelque chose qui a existé, qui était une voie qui pouvait nous conduire à régler l'affaire de Laurent Nkunda, mais quand même, aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est Laurent Nkunda qui a dénoncé ça. Alors que, publiquement, au cours d'un point de presse, c'est le pouvoir qui a dénoncé le mixage. Donc, on peut dire que le mixage était mauvais, je comprendrais. Mais dire qu'il a refusé de passer par le mixage pour mettre fin au conflit, là, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas totalement vrai. Deuxième élément. Je parle de ce que vient de dire M. Kemal sur le mandat de la MONUC, où il dit qu'un des rôles de la MONUC, c'est de dissuader toutes les tentatives de l'utilisation de forces pour déstabiliser le processus de paix donc par les différents groupes armés. Je suis totalement d'accord. Mais nous savons que les Interahamwe ne font que tuer et violenter pendant tous ces temps. Il y a un rapport d'une organisation internationale qui fait état de 4500
cas de viol dans le seul Sud Kivu de janvier à juin 2007.
Vous attribuez ça aussi de l'erreur?
Non, il parle. J'ai suivi la bande qui est passée d'ailleurs sur une chaîne française, ce n'est même pas local, où toutes ces femmes parlent. Le rapport lui-même dit que 80% de ces cas de viol sont attribués au FDLR Interahamwe. 20% au FRDC, à la police et aux différents groupes congolais. Alors, la MONUC n'a jamais rien fait contre ces gens-là. Donc, est-ce que ces gens-là ne menacent pas les...
C'est mal dit que c'est pour moi.
Non, il attend. Quelle opération la MONUC a déjà faite, l'utilisation de la force contre les élèves d'Interahamwe, pour qu'ils nous informent. Donc, est-ce que c'est aujourd'hui qu'ils viennent d'avoir ce rôle de protéger la population? Pendant tout ce temps, pourquoi il n'y a jamais eu une action d'envergure contre les FDLR, les Interahamwe et tous les autres groupes? C'est une question. Mais la dernière chose à dire, moi je considère, monsieur le journaliste, que cette option militaire, sauf si ma lecture est erronée, c'est possible. Mais cette option militaire viole l'accord de Nairobi. Si j'ai bien lu l'accord de Nairobi, il était dit que la première force déstabilisatrice qui était reconnue, c'était l'FDLR. Et on devait commencer par l'FDLR. Probablement, même si l'attaque pouvait être instantanée, mais elle devait commencer par cela. Mais aujourd'hui, on ne parle que du groupe Nkunda. Ce n'est pas mon problème qu'on commence par celui-là, mais on ne dit rien des FDLR, on ne dit rien des Mai Mai, on ne dit rien des autres groupes. Je considère donc qu'on devait rester dans l'accord de Nairobi. Le 1er décembre, c'est bientôt, on sort le plan et les choses marchent pièce par pièce jusqu'à établir la paix et la sécurité dans la province, dans les provinces du Kivu et aussi dans la sous-région.
Voilà. Et maintenant, on va donner d'abord la parole. Oui, Kemal Saïki, vous réagissez.
Non, je mets l'avant faux lorsqu'on dit qu'on n'a jamais monté d'opération contre les FDLR.
Et pourquoi pas?
Nous avons aussi bien au nord Kivu qu'au sud Kivu, nos troupes ont été sur le terrain. Nos troupes sont intervenues contre les FDLR. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez dire par opération d'envergure.
Vous avez rappelé à quelle occasion,
par exemple? Je peux vous rappeler, pas précisément dans les détails, nous avons par exemple la brigade du Sud Kivu qui est très active contre les FDLR. Je crois que, comme je vous l'ai dit, ce qui est au cœur de nos préoccupations, c'est effectivement la protection des populations civiles. Et chaque fois que celles-ci ont été menacées, nous avons essayé d'intervenir, nous sommes intervenus. D'ailleurs, pas seulement dans les Kivu, et pas seulement contre ce groupe-là, contre les groupes des ministres de l'Ituri, par exemple, et on a obtenu des résultats probants. Moi, je suis un petit peu surpris que, d'un côté, on prône la modération et peut-être la recherche de solutions pacifiques, et puis lorsqu'il s'agit d'un autre côté, on semble prêt à aller très rapidement à la solution militaire. Alors, il y a peut-être une contradiction ici.
Voilà. Bon, voilà, ça c'est Kemal Saïki. Mais Jean Bouillot, nous sommes à quelques jours du 1er décembre. C'était la date prévue pour la présentation par la RDC du plan de désarmement de FDLR. Est-ce que vous pensez finalement que les FARDC vont aller sur deux fronts, à la fois les FDLR et les éléments de Nkunda et son groupe, ou comment vous répondez finalement à la question de Moïse Nyarugabo?
Oui, bon, d'abord il faut souligner que les considérations émises par le sénateur Nyarugabo relèvent de ce qu'on appelle communément la cinquième colonne. En fait, ici, on a affaire à des gens qui sont dans la capitale pour soutenir Laurent Nkunda et en fait soutenir toute initiative qui n'amène pas à la paix. Depuis les trois dernières années, on n'a parlé que d'FDLR. Et l'armée s'est engagée à plusieurs reprises dans des attaques contre les FDLR, y compris d'ailleurs avec l'appui de la MONUC. Alors dire aujourd'hui que, bon voilà, les FDLR, bon, c'est cela qu'il faut attaquer. Quand Laurent Nkunda organise des tueries, il attaque les camps de réfugiés, il fait des choses qui sont quotidiennement reportées.
Oui.
Et que j'ai un citoyen congolais devant moi, qui lui, Laurent Nkunda, c'est un ange. Je dis, bon, ça, c'est une position de Laurent Nkunda dans la capitale. Et ça, c'est dangereux.
Oui, mais qu'est-ce que vous dites quand même par rapport à l'accord de Nairobi qui donne la dite qu'il faut s'attaquer, au FDLR, je pense, en priorité. Je ne sais pas si vous...
Je pense que l'accord a eu le mérite de rappeler que toutes les forces négatives doivent être mises à néant. Ça, c'est le mérite de l'accord.
Oui.
Mais entre-temps, la question de Laurent Kunda, en tant qu'ancien général de l'armée, est restée pendante. Il n'a jamais été dit, Laurent Kunda ne doit plus être astreint à ses obligations de perturber la paix. Il est reconnu par tous que ce général déchu, avec ses hommes, doivent se rendre. Et le gouvernement et l'état-major de notre armée n'ont été que sur cette logique, y compris avec la MONUC. Et aujourd'hui, si la décision a été prise par l'état-major général de l'armée,
oui,
décision à laquelle ne croit même pas le sénateur, parce que lui, le sénateur, considère qu'il s'agit simplement d'une nouvelle mise en garde, eh bien moi je vous dis que cette décision a été prise à la suite de tous les échecs, de tous ces arrangements liables.
Mais et répondez quand même à la question, Jean Bouillou, finalement, est-ce que les FARDC seront sur les deux fronts à la fois, ou ils vont commencer, les FARDC vont commencer d'abord par Kunda et les FDLR après?
Mais c'est depuis 5 ans qu'ils sont sur les deux fronts en même temps. Depuis tout ce temps de négociation, ils sont sur les deux fronts. Toutes les opérations menées contre les FDLR et qui ont été suivies jour après jour, jusqu'à ce jour, avec l'appui de la MONU, toutes les opérations menées contre, récentes d'ailleurs, contre Laurent Kunda, et nos forces ont été sur le front depuis tout ce temps.
Voilà. On va à Goma, oui, moi, vous allez réagir. On va d'abord à Goma, Flavien Tchiza. Finalement, c'est quoi la priorité pour vous, pour qu'il y ait la paix à l'Est? Faut-il commencer d'abord par les FDLR ou commencer d'abord par Kunda?
Je veux d'abord parler d'un engagement au niveau du village. On ne peut pas enlever les chics de l'enfant du voisin avant d'enlever les chics de son enfant. D'abord, c'est ça, c'est clair. C'est clair. Mais toutefois, on peut combiner les deux stratégies. Donc, lorsque les gens parlent de FDLR, je suis d'accord avec ces gens-là. Mais nous devons savoir que ce n'est pas l'apanage de la République démocratique du Congo seul, mais aussi y compris la SEUR et la communauté internationale. Et donc, nous ne pouvons pas faire la politique ou la diplomatie de la République démocratique, de la République du Rwanda, au lieu de parler de notre problème. Laurent Kunda existe il n'y a pas 2, 3, 4 ans, mais les FDLR existent il y a 10 ans.
Oui. Et donc, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Je veux dire que nous devons d'abord mettre de la discipline au sein de notre armée. Et lui, il est partie intégrante de FARDC, même s'il a les éléments et qu'il ne comprend pas l'étranger.
Donc, on
va d'abord régler les problèmes de la discrimination, les problèmes qui se sont convenus à Saint-City, et puis on passe par cette autre phase-là. Mmh. Régler les problèmes des FLLR. Si on doit les mettre au dos des acteurs ou de la communauté internationale, on va voir, et c'est un problème des nations, ce n'est pas un problème du groupe ethnique, ce n'est pas un problème des régions, ce n'est pas un problème des provinces.
Oui. Alors, Moïse Nyarugabo, cinquième colonne,
la première.
Oui.
Le monsieur qui parle de Goma dit que le rencontre existe depuis 2 ans, mais que les interim existent depuis 13 ans, et sa logique conduit à conclure qu'ils font commencer par celui qui a 2 ans et laisser libre celui qui a 13 ans.
Parce qu'il dit qu'il fait quand même partie de l'armée.
C'est sa logique, mais moi je ne comprends pas. Les gens qui ont 13 ans en train de tuer, de violer, de faire tout ce qu'ils font, pour lui ce n'est pas un problème, ce n'est pas une priorité, et la priorité c'est Laurent Kunda. Pour moi, je suis très très surpris par la réaction de l'honorable Mouyou. Et je lui demande d'arrêter d'insulter les gens. Parce que je ne réfléchis pas comme lui, il mettrait de 5e colonne, c'est scandaleux. Le temps de la pensée unique est terminé. Je suis en droit de soutenir ma logique, et je la soutiens en âme et conscience, et je dis, je soutiens le dialogue, et pas la guerre. Je le répète, si c'est cela, parler pour Laurent Kunda, eh bien, alors j'ai parlé pour lui. Mais moi, je soutiens le dialogue. Et le dialogue, c'est bon, et pour Laurent Kunda, et pour les FARDC, et pour la communauté internationale, et pour la population. Les conséquences de la guerre vont toucher tout le monde. Et c'est ça être la 5e colonne? Donc, quand on ne réfléchit pas comme eux, on devient ennemi? Non. Je lui demande de retirer ça. Nous faisons un débat démocratique. Chacun donne sa pensée. Sinon, à quoi servirait de faire un débat? Si nous devons, après qu'ils aient parlé, nous disons amen. Et je veux terminer en disant ceci. Il a dit que notre armée n'a fait que s'occuper des FDLR.
Vous ne semblez pas d'accord.
Écoutez, vous êtes journaliste. Même le représentant de la MONUC n'a pas dit quand et où.
On s'est occupé de la SDLR, on les a attaqués quand et où? Écoutez, et si on doit être franc, lorsqu'on dit que les gens soutiennent Laurent Kunda, mais qui a soutenu Laurent Kunda plus que le gouvernement? Les armes que Laurent Kunda a, c'est le gouvernement qui les lui a données.
Comment ça?
Jusqu'il y a 2-3 mois, les militaires de Laurent Kunda continuent à toucher l'argent de l'armée. Vérifiez, monsieur le journaliste.
Dans le cas du message.
Mais alors, on a donné de l'argent à Laurent Kunda. On a donné des armes à Laurent Kunda. Et aujourd'hui, celui qui demande le dialogue, c'est celui qui est la cinquième colonne? Non. Je pense que nous devons assumer nos points de vue. On n'est pas ici pour juste lancer des slogans. J'ai réfléchi et je pense que le dialogue, c'est la solution qui peut nous aider à économiser et la souffrance et les conséquences, les populations qui sont sur la rue, les populations qui vont mourir parce que simplement prises entre deux feux, même le monsieur de la MONUC l'a dit, et je considère que ce n'est pas idiot.
Merci, Monsieur Gabo. Alors, pour Kemal Saïki, vous êtes...
Premièrement, je précise, je ne suis pas un expert militaire, donc je ne peux pas vous donner des dates ou des endroits de bataille. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un effort qui a été entrepris et cet effort continue. La deuxième des choses,
oui,
je précise, oui, bien lorsque vous pensez à la définition de ce qu'un renégat, c'est quelqu'un que vous armez, que vous nourrissez, que vous équipez et qui un jour se retourne contre vous. C'est ça la déjà. Alors, de dire qu'il y a une personne qui a été équipée et qui a été financée, n'est pas une explication suffisante. Mais, comme je vous l'ai dit encore, je le répète, la préoccupation principale que nous avons, c'est le sort et la protection des civils et la situation humanitaire.
Justement, à ce niveau-là, justement, qu'est-ce qui vous fait dire, Kemal Saïki, que l'usage de la force va permettre de régler une fois pour toutes cette crise dans l'est du pays?
Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit au début de l'émission.
Non, l'option militaire a été quand même annoncée officiellement.
Oui, écoutez, je vous ai dit tout à l'heure que l'option militaire était une détermination, un choix du gouvernement congolais.
Et vous pensez que ça peut...
Je vous ai dit, ce que je pense n'a pas d'importance. Il faut regarder ces faits-là. C'est un choix du gouvernement congolais. La deuxième des choses, je regarde le mandat qui a été assigné par cette mission par le Conseil de sécurité et dont j'ai dit tout à l'heure qu'il consistait aussi à prêter assistance aux autorités légales légitimes de ce pays. Et je crois qu'à plusieurs occasions, la MONUC et ses troupes ont montré qu'elles étaient prêtes à remplir leur mandat et qu'elles l'ont fait. La quatrième chose, c'est, je l'ai dit au début de cette émission, cela fait partie du patrimoine génétique des Nations Unies
que de rechercher des solutions pacifiques.
Oui. Mais, d'un autre côté, il y a différents jugements, on a dit pression militaire, pression de négociation, intervention politique. Il ne faut pas oublier la dimension régionale aussi de cette situation à laquelle nous sommes confrontés dans la RDC de l'Est.
Merci. Voilà, on va prendre les réactions des auditeurs avec vous, Anselme Sissi Mumbere. Bonsoir.
Bonsoir. Etienne nous dit, la Mike Amwanda dans le Bas-Congo affirme que la MONUC et les FARDC peuvent tout faire à l'Est, mais s'ils ne cherchent pas à négocier, rien ne marchera. Robert Abadani de Bukavu, suite qui vous pose la question suivante. Quelles sont les techniques que la MONUC et les FARDC utiliseront pour que la population civile du Nord Kivu ne soit pas atteinte par les balles perdues, les bombes et autres? Cédric, du club des auditeurs de Radio Kapi à Butembo, au Nord Kivu, pense que ce n'est que de la distraction, de la mascarade. La MONUC, comme les FARDC, ont une dette morale envers Kunda, estime-t-il. La MONUC ne doit donc pas être jugée partie, a-t-il conclu. Pour Akili Rigen de Kalemi au Katanga, la seule piste pour mettre fin à la souffrance des populations de l'Est reste l'usage de la force contre Kunda. Enfin, Kingombe de Gemena à l'Équateur,
oui,
affirme que les FARDC et la MONUC doivent savoir que quand les éléphants se battent, ce sont les herbes qui en souffrent.
Merci.
Donc, négocier avec Kunda évitera la fuite des milliers de Congolais.
Merci beaucoup, Anselme Sissi Mumbere. Nous commençons par vous, chers auditeurs. Nous allons d'abord à Goma retrouver Flavien Chiza, président intérimaire de la coordination de la société civile à Goma. Soyez bref, parce qu'on tend vers la fin de cette émission. On commence par Kingombe de Gemena à l'Équateur, lui qui demande aux FARDC à la MONUC de savoir que dans cette offensive, en fait, quand les éléphants se battent, ce sont les herbes dont il veut parler de la population. Il faut donc négocier avec Kunda pour éviter le nombre de déplacés. Qu'est-ce que vous répondez, parce que vous êtes à Goma, Fabien Chiza?
Oui, ok, les messieurs qui parlent, oui, lui ne vit pas les conséquences que nous sommes en train d'endosser. Nous sommes d'accord avec ce qu'il dit, c'est ça, son langage. Nous disons qu'il y a un moment de souffrance et qu'il y aura un moment de paix. Il y a eu 4 millions de Congolais qui sont morts et on connaît que les gens continuent à mourir même si on continue à négocier. Le processus de négociation, de dialogue et le processus d'ultimatum est dépassé. Et je pense qu'on doit faire tout pour libérer la population du Nord Kivu dans les ténailles et dans les endroits qui sont en train de souffrir. C'est ça donc.
Comment ça ici, il y a des questions là, notamment Robert Kabandani de Bukavu et puis Cédric du club des auditeurs de Butembo. Le premier d'abord, lui demande quelles sont les techniques que la MONUC et les FARDC utiliseront pour que la population civile du Nord Kivu ne soit pas atteinte par des balles perdues, des bombes et autres. Qu'est-ce que vous répondez?
Vous savez, le propre de tout conflit, malheureusement, à la plupart des conflits modernes, c'est que ça n'implique pas uniquement les forces militaires, les forces armées. Ça implique les civils, et c'est pour ça que je dis que c'est une situation qui nous préoccupe toujours, celle de la sécurité des populations civiles. On peut minimiser l'impact que cela aura.
Enfin, bref,
on peut minimiser en évitant d'avoir des activités militaires importantes autour des centres, des camps de déplacés, par exemple, puisque c'est le cas du Nord Kivu. On peut essayer de trouver des... mais on n'a jamais... malheureusement, une sécurité à 100%, qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux, comme on dit. Donc, c'est pourquoi la meilleure façon, effectivement, d'éviter cela, c'est de minimiser les opérations militaires et de faire en sorte d'arriver à convaincre, comme on l'a fait aujourd'hui avec les 15 hommes de troupes de M. Nkunda, de les convaincre de se rendre et de déposer les armes.
Okay. Alors, Moïse Nergabo, c'est bref, hein, parce que c'est pour permettre à tout le monde d'intervenir. Attili, Reagan, lui, il est de Kalemi au Katanga. Pour lui, la seule piste pour mettre fin à la souffrance des populations à l'Est reste l'usage de la force contre Nkunda. Vous l'avez déjà dit, vous n'êtes pas pour la force.
Non, je note que de tous les intervenants qui ont envoyé des messages, un seul a demandé l'utilisation de la force. Un seul. Et je note que c'est éloquent, c'est suffisant pour faire comprendre qu'il n'y a pas que moi. Il y a des gens qui sont à Kalemi, à Butembo, dans le Bas-Congo qui demandent le dialogue. Donc, je veux simplement dire que, c'est simplement pour répéter, moi je plaide pour le dialogue. Demander le dialogue, c'est parler pour les FARDC. Ces enfants n'ont pas besoin de mourir. Eux aussi ont besoin de vivre. Demander le dialogue, c'est parler pour ces militaires qui sont avec le Nkunda. Et demander le dialogue, c'est parler pour la population qui risque de continuer à être encore beaucoup plus victime de ce conflit et tomber sur ce champ de bataille.
Merci Moïse Ngabo. Jean Bouillou, député national, PPRD, Étienne Loudila, Mike de Mwanda au Bas-Congo. Pour lui, il pense que la MONUC et les FARDC peuvent tout faire à l'Est, mais s'ils ne cherchent pas à négocier, rien ne marchera. Vous dites quoi?
Bon, je pense que c'est un point de vue assez excentré parce que je crois qu'il n'est pas dans la réalité des problèmes et il n'a peut-être pas suivi non plus depuis combien de temps la MONUC et les FARDC essayent de négocier et de dialoguer avec Laurent Nkunda jusqu'à passer par ce que aujourd'hui, notamment le sénateur Nyarugabo considère comme avoir armé Nkunda. Donc, tout ce que la MONUC et les forces armées de la République ont essayé pour convaincre Laurent Nkunda de venir pacifiquement est pris par certains nationaux comme justement absence d'effort, absence de force. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui a émis un avis très excentré.
Mais puisque vous avez encore la parole, oui. Le sénateur Nyarugabo, vous avez demandé de retirer le terme cinquième colonne, vous le retirez?
Ben, le sénateur Nyarugabo embarrasse le peuple congolais, sincèrement, parce qu'il prend une position tellement extrême et tellement à l'encontre des intérêts de la population qui nous oblige en quelque sorte de réagir contre lui. Alors que l'intérêt du peuple congolais, c'est justement la paix, c'est le dialogue, c'est le développement. Alors, prendre une position...
Mais vous n'êtes pas pour le dialogue.
Mais non, on a fait combien d'années de dialogue? Lui-même, Seigneur Rugabo, était ici, c'est parce qu'il y a eu dialogue, le sénateur Rugabo, excusez-moi. Et parce qu'il y a eu dialogue, ce qu'on appelle le dialogue intercongolais, et qui a abouti à ce que nous soyons ensemble.
Bon.
Donc moi, je dirais en résumé que nous ne sommes pas contre le dialogue, nous sommes d'accord qu'il y ait ce dialogue, mais le dialogue doit avoir un aboutissement.
Oui, est-ce qu'on retire ou pas
je ne veux pas apparaître comme un méchant, mais tous nous savons de quoi nous parlons. Si cette parole a énervé le sénateur, je la retire.
Merci beaucoup.
Mais nous savons chacun de quoi il parle.
Merci, c'est avec vous, Jean Bouillou, que nous mettons fin à cette émission. Pour les Moukéo était à la mise en onde, réalisation Kevin Couté, ancien Titi Mombéré, a préparé pour vous cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Radio Okapi.
Cette émission sera rediffusée demain matin à partir de 4h45 sur de Kinshasa et puis elle sera disponible sur notre site internet.